la clé du succès pour une marque, c'est vraiment de se poser la question dans le bon sens, quoi. Pas de savoir ce que les gens peuvent apporter à ma marque, mais d'aborder la question dans l'autre sens. C'est quoi le rôle, le service que ma marque peut raisonnablement offrir aux gens, qui va les aider à résoudre une friction de leur vie qui les préoccupe vraiment.
Bienvenue à notre podcast Marketing Coffee Talk, une série de podcasts animés par Fleur Parnet, la toute nouvelle CEO de BAM. Dans chaque épisode, elle s'entretient avec un lauréat des Belgian Marketing Awards 2023.
Chaque année, en automne, les associations belges de marketing et de communication récompensent les marques et les marketeurs les plus performants et les plus influents au cours des Belgian Marketing Awards. Dans la catégorie Marketing Company of the Year, Spadel a remporté le Golden Award. Spadel s'est distingué par une stratégie marketing solide appliquée à tous les niveaux. L'entreprise et ses collaborateurs sont animés par leur mission qui va bien au-delà de l'aspect purement commercial. Nous en parlons avec Mélanie Dessel, directrice Brand Equity et Innovation chez Spadel. Elle est marketeuse et leader inspirante. Bienvenue Mélanie, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce Marketing Coffee Talk.
Merci Fleur, c'est un grand plaisir d'être ici et merci de m'avoir invitée.
Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques mots?
Je suis Mélanie Dessel, je suis Brand Equity et Innovation Director pour le groupe Spadel, c'est-à-dire que mon équipe et moi-même, on est en charge de la stratégie des marques, de l'innovation et de communication pour l'ensemble du groupe Spadel. Alors, peut-être tout le monde ne connaît pas l'entreprise Spadel, c'est une entreprise familiale belge qui est active dans le secteur des boissons et plus particulièrement dans celui de l'eau minérale naturelle et qui est active dans plusieurs pays et probablement les gens nous connaissent mieux ici en Belgique avec nos marques phares, Bru et Spa, mais on est aussi en France avec Carola et Weidwiller et en Bulgarie avec la marque Devine.
Ah ben, j'ignorais ça.
Et voilà. Et donc, moi, je suis arrivée dans le marketing un peu par hasard parce qu'à la base, je voulais être médecin. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Comme j'étais un peu hésitante au moment de choisir mes études, j'ai choisi un champ le plus large possible, celui de l'économie appliquée à la Louvain Business School. Et puis, par la suite, j'ai fait un master en économie financière. Et je suis un peu le pur produit FMCG, quoi. J'ai commencé comme trainee chez Unilever. J'ai fait un petit détour par le contrôle de gestion parce que mon cœur balançait encore entre la finance et le marketing.
Tu voulais des chiffres, quoi.
Je voulais du chiffre, du tangible. Non, c'est pas vrai. Et puis, je voulais comprendre, surtout. Mm-hmm. Et puis, finalement, comme je dis toujours, j'ai trouvé ma tribu, en fait. J'ai atterri sur la marque Dove. Et là, j'ai vraiment découvert le métier. Après, j'ai transité à la Coca-Cola Company. Donc, je suis restée 8 ans. Puis brièvement chez Bacardi Martini et au fil du temps dans ces entreprises-là, j'ai exercé des rôles en local, au niveau européen et au niveau global. Et puis il y a 5 ans, je suis arrivée chez Spadel, un peu à destination, comme je dis.
Quelle belle histoire.
Dans une entreprise belge, locale, où je me sens bien, où je suis en ligne avec les valeurs et où j'ai trouvé vraiment un cadre suffisamment large pour pouvoir proposer des choses et pour un peu agir en petit marketeer entrepreneur au sein d'une belle entreprise.
Merci pour cette petite introduction. En guise de première question, je demande à tous mes invités. Bon, finalement, on repart sur le basique, hein, ce que signifie le marketing pour eux et pour leur entreprise. Alors, pour toi, donne-nous dans le groupe Spadel ce que ça signifie.
Je vais commencer par Spadel. Moi, ouais. Je dirais que le marketing pour Spadel, je le vois vraiment comme un dialogue entre nos marques et les gens qui nous consomment au quotidien. Je trouve que le marketing, c'est vraiment une démarche d'écoute de leurs besoins, de leurs attentes et d'essayer d'identifier les frictions dans leur vie, évidemment en rapport avec notre activité.
Oui.
On ne va pas résoudre
tous les problèmes.
Et finalement, la volonté d'y répondre, d'apporter des solutions saines, dans notre cas, saines et plus durables. Voilà. Moi, à titre personnel, le marketing, c'est plutôt une discipline et un métier qui me passionne, qui m'apporte beaucoup de joie. Je trouve qu'on a la chance d'exercer un métier fascinant à l'intersection de la sociologie, de la psychologie, de l'analyse, du design, de la science. Enfin, il y a tellement qui touche à tout et qui permet de rencontrer des gens hyper intéressants, constamment, divers. Et pour moi, c'est une source d'apprentissage au quotidien et voilà, un métier qui m'anime vraiment.
Bon, voilà, c'est parfait. Et on fait le lien aussi avec ce que tu nous as dit en introduction, évidemment. Alors, dans une interview, tu as déclaré, outre la mission commerciale, nous avons intégré une mission sociétale. Nous voulons relier les gens et la nature d'une manière durable. Tu peux nous en dire plus ?
Oui, on commence fort, hein, c'est un grand sujet. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est en fait exactement un des éléments qui est au cœur du Meaningful Marketing Framework de BAM aussi. C'est que ce qui caractérise Spadel et je pense qui nous différencie de nos concurrents, c'est le parti pris fort de notre vision d'entreprise. C'est-à-dire que nous n'avons pas seulement la mission de commercialiser des boissons, on a intégré au-delà de cette mission aussi une vraie mission sociétale. Et c'est la suivante, c'est qu'on a pour objectif de préserver une ressource qui est unique, sans qui la vie n'est pas possible, hein, l'eau, mais aussi tous les territoires de ces sources et la nature qui l'entoure. Et en fait, on a vraiment développé une expertise autour de nos hydrogéologues, de nos spécialistes CSR pour préserver cette nature, préserver cette biodiversité et pour collaborer avec les autorités locales et les stakeholders. Et ça a résulté sur des choses très concrètes, en fait, que parfois les gens ne savent pas, mais c'est ainsi qu'on est arrivé à la création du parc naturel des sources, qui est un des plus grands parcs naturels d'Europe, en collaboration avec les communes de Spa et de Stoumont, et en soutien avec la région. Et nous attelons, évidemment, à y protéger la nature et à faire prospérer la biodiversité. Très concrètement, en fait, en 2020, c'est l'année écoulée, en 2023, avec le soutien d'un organe indépendant qui est Arcadis, on a pu prouver que l'environnement autour des sources et du parc naturel était positif en termes de biodiversité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que par l'intermédiaire des différentes initiatives qu'a pris l'entreprise Spadel en collaboration avec les autorités locales, comme par exemple la reforestation, la plantation de certaines espèces de flore, ou bien on a un programme d'aide à la prolifération des abeilles au sein du parc. En fait, on a pu démontrer que la biodiversité dans cet environnement se portait mieux que si l'entreprise Spadel n'existait pas.
Agi, hein, oui.
Et en fait, c'est un exemple, hein, mais je pense qu'il est très parlant. Mais plus structurellement, c'est en fait pour reconnaître cette volonté d'avoir aussi cette mission au-delà du purement commercial qu'on a fait toute la démarche en 2022 pour devenir une entreprise Bicorp. Et qu'on a d'ailleurs obtenu la certification Bicorp pour en fait s'obliger, ça fait partie du process Bicorp, on inscrit dans nos statuts de société que notre mission, elle va au-delà. C'est le but de faire du business, oui, mais pas à n'importe quel prix, et d'essayer, par cet intermédiaire, voilà, de faire bénéficier la société et les communautés autour.
Effectivement, et je pense que c'est le moment aussi de parler de durabilité. Donc, c'est un grand mot, hein, évidemment. Ouais. Mais tu en touchais déjà un petit peu par les exemples que tu nous partages. Mais finalement, quelle est l'importance de la durabilité, avec un grand D, on va dire, pour Spadel ?
C'est vraiment un des éléments majeurs de notre entreprise. Elle est au cœur de la stratégie, de notre décision, de la façon même dont on est organisé en interne, en fait.
La gouvernance.
Oui, et dans la façon dont les équipes collaborent. Et pour nous, je pense, la façon dont on aborde la durabilité, particulièrement dans notre secteur, c'est un facteur de différenciation dans l'industrie. Et c'est pas arrivé du jour au lendemain, quoi. Ça s'est vraiment inscrit au fil du temps dans l'ADN de Spadel, mais je pense qu'elle a pris une importance et une place décisive au sein de l'entreprise sous le lead de l'actuel CEO, Marc Dubois, qui est aussi propriétaire de l'entreprise. Parce que bien avant que la durabilité devienne le sujet brûlant, je vais dire, Marc a vraiment insufflé à l'entreprise ses propres convictions. Et il en a fait un axe stratégique et de décision majeur. Mais je parle d'ici, il y a 20 ans.
Oui, c'est
quoi.
Des sujets de long terme, en fait.
Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs cette durabilité qui est même à la base de la stratégie business de Spadel, parce qu'on se positionne comme un leader régional qui a pour objectif de développer des marques fortes, locales, qui offre une alternative pure. Mais le mot ici que je veux souligner, c'est le côté régional, parce que ce choix, il est vraiment fondamental pour l'entreprise et il est lié à cette volonté de durabilité, parce que ce n'est pas dû au fait que nos marques n'ont pas le potentiel d'être des marques globales. Hein. Une marque comme Spa, c'est une marque avec un brand power, on reprend certains modèles bien connus, extrêmement élevé. C'est une eau qui est assez unique et qu'on pourrait avec certitude l'étendre au-delà des frontières du Benelux. Mais ce qui a drivé la volonté de demeurer régionale, c'est vraiment la conviction que le positionnement local, il nous permet, un, d'avoir une proximité avec le consommateur qu'une marque globale ne pourra jamais avoir. Et deux, que cette stratégie de leadership régional, elle implique aussi une limite positive à notre impact environnemental, en fait.
Alors, je voudrais toucher un gros mot. Plastique. mais comment est-ce que, toi, comment tu concilies l'activité de Spadel et le fait de vendre des bouteilles en plastique? Voilà.
D'abord, j'aimerais me permettre de rectifier un élément fondamental de ta question, c'est qu'on ne vend pas des bouteilles en plastique, on vend de l'eau minérale naturelle. Et on vend un des produits, si pas le produit, le plus naturel et le plus pur que qui que ce soit peut trouver sur le marché. Et c'est d'ailleurs un challenge auquel on est confronté en tant que marketeer chez Spadel, c'est que dans la tête des gens, souvent, l'eau, c'est de l'eau. Or, c'est pas vrai. L'eau minérale naturelle, c'est vraiment l'expression la plus pure de l'eau. C'est vraiment une eau qui a été capturée dans les couches les plus profondes de l'aquifère. Et souvent, il y a eu des années de filtration par la nature. Elle est soumise à aucun traitement chimique et elle ne peut pas être altérée par l'homme. Et une des spécificités, c'est qu'elle doit toujours être embouteillée à la source pour garder toujours le même équilibre minéralogique. L'eau du robinet, c'est une eau qui a été capturée dans des couches supérieures, qui ne sont pas nécessairement protégées, donc elle peut être soumise à la pollution externe, et c'est pour ça qu'elle doit subir des traitements pour être potable. Et je fais la petite digression, mais je vais revenir à ta question. T'inquiète pas, je suis pas en train de botter en touche. Moi, je dis toujours, juste pour que ça soit bien clair dans la tête des gens, si on voulait comprendre et simplifier, tu vois, l'eau minérale naturelle, on pourrait faire le parallélisme avec les légumes. Et l'eau minérale naturelle, c'est un peu le petit légume bio de ton producteur du coin par rapport à, voilà, le légume que tu peux trouver dans les grandes surfaces. Mais je fais ces petites digressions pour revenir au cœur de ta question, comment on concilie l'importance de la durabilité et le gros challenge de notre industrie, c'est l'emballage. En fait, j'y ai partiellement répondu, c'est parce que déjà, on croit en notre produit. C'est un produit qui est sain, qui est bon pour la santé des gens, et c'est notre but, c'est de le fournir un nombre plus grand possible et les accompagner justement dans ce mode de vie sain. C'est une des convictions qui nous anime. Et voilà, de les aider dans tous les challenges qu'ils rencontrent au quotidien autour de l'hydratation. Mais le challenge de notre industrie, donc, c'est pas celui du contenu, c'est celui du contenant. C'est une nuance importante. Parce que, évidemment, c'est un tout autre challenge de promouvoir un produit dans lequel on croit pas beaucoup et qui est peut-être pas très sain pour les gens. Maintenant, par rapport à notre situation, je pense qu'on a vraiment une responsabilité. Et peut-être que comment j'arrive à concilier, c'est peut-être par un twist un peu prétentieux, c'est que je pense que on fait face à un environnement hyper concurrentiel et très agressif, fait de multinationales qui partagent pas toutes nos convictions, mais on est convaincu que le changement, il doit venir de l'intérieur. Il doit être poussé par les acteurs internes. Et on pense que Spadel, à son échelle, a le pouvoir de faire évoluer les choses dans le bon sens, quoi. C'est pour ça, par exemple, qu'on lance des innovations comme notre éco-pack 5 litres et 10 litres. Parce que c'est avec la force d'une marque comme Spa, on peut, qui est leader incontestable de sa catégorie, on a le pouvoir de faire évoluer la manière de consommer des gens, de leur faire adopter des nouveaux emballages comme notre éco-pack, qui en l'occurrence réduit de 70% l'empreinte plastique par rapport à la bouteille pour un même litrage. Donc, voilà, on peut faire bouger les choses, on va faire bouger les choses, enfin, on est en train et on compte bien continuer et accélérer. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, d'ailleurs, enfin, je m'emballe évidemment, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est on s'est carrément réorganisé au sein de l'entreprise pour ça. Tu vois, aujourd'hui, quand, par exemple, l'équipe marketing en charge de l'équité et de l'innovation que je dirige, par exemple, elle est regroupée dans la même entité que l'équipe CSR et que l'équipe R&D, packaging et formulation. En se réorganisant ainsi, on a vraiment fait tomber des silos physiques déjà, mais aussi des silos
de mentaux,
de réflexion. Parce que pour justement intégrer ces enjeux au cœur de la réflexion, donc si je te donne un exemple concret, aujourd'hui chez Spadel, quand on réfléchit à un projet d'innovation packaging de demain, se mettent tout naturellement autour de la table.
Ces entités-là. Quoi.
Voilà, le chef de produit marketing qui, lui, va représenter le conso, le responsable R&D qui va traduire en faisabilité technique et le représentant CSR qui va vraiment être le gardien de la stratégie et qui va chaque fois aider à calculer l'impact environnemental de nos idées, voir comment ce projet contribue à nous rapprocher de nos objectifs en termes de recyclabilité, de réduction de l'empreinte plastique, de progression vers plus de circularité. Et en fait, cette démarche pluridisciplinaire, elle est appliquée à nos projets d'innovation, mais aussi à d'autres entités, comme des projets commerciaux. Ah. Et ce qu'on a vu, en fait, au fur et à mesure, c'est que la durabilité, le CSR, ne restait plus confiné auprès des 2-3 personnes.
Et à faire de la vérification uniquement.
Voilà. En fait, au fur et à mesure, déjà, de procéder de la sorte, ça permet d'avoir des perspectives différentes et parfois inattendues dans un projet. Mais au fur et à mesure, on voit que chacun devient meilleur dans la maîtrise de l'expertise de l'autre. Et donc, dans le cadre de la durabilité, ça veut dire que il y a un nombre beaucoup plus large de collaborateurs qui comprennent les enjeux, qui l'intègrent dans leur façon de penser, de réfléchir et qui peuvent à leur tour en parler de manière beaucoup plus sereine, en maîtrise, avec leurs stakeholders respectifs, que ça soit les agences, les retailers, les clients, pour ensemble trouver des solutions et intégrer cette dimension dans la réflexion. Donc,
tu viens de faire une belle démonstration d'éco-conception, me semble-t-il.
C'est un peu ça. Moi, j'appelle ça le ricochet positif. Mais c'est vrai que c'est fascinant de voir comment tout le monde, du coup, s'approprie et devient motivé par le sujet.
Et ça change beaucoup. Ça change tout.
Ouais.
Alors, j'ai une autre question, mais tu en as un petit peu parlé auparavant, donc peut-être tu vas pouvoir développer, mais comment est-ce que, du coup, vous créez cet impact positif sur la nature, sur la société et sur les communautés locales? Tu nous as pas mal parlé de région, enfin régionale, mais est-ce que tu peux nous développer un petit peu là-dessus?
Au sein de l'entreprise Spadel, on a un cadre d'action, on a une série de piliers, 4 piliers majeurs qui définissent notre cadre d'action et qui va, je dis toujours, nous contraindre positivement.
D'accord.
C'est pas un vilain mot, c'est plutôt, je vais dire, un cadre positif. Et donc, on a plusieurs piliers. Le premier, c'est il porte sur la nature de nos produits. Donc, on commercialise des produits 100% d'origine naturelle qui visent chaque fois à offrir une alternative naturelle et plus saine que ce qu'il peut trouver sur le marché. Le second pilier, c'est autour de la collaboration et du bien-être des employés. Mais les deux piliers, pour répondre à ta question sur lesquels je veux plus m'attarder, c'est et celui de comment créer un impact positif pour la communauté locale. C'est les deux derniers. Dans notre cas, ça s'appelle agir localement. Et le dernier, c'est agir durablement. Et en fait, si je prends le premier, agir localement, on se contraint positivement à employer presque exclusivement des collaborateurs locaux, par exemple, dans les communautés où on commercialise nos produits. C'est aussi pour ça que 95% de nos fournisseurs sont des fournisseurs locaux. C'est la même chose pour nos matières premières, pour nos services. Donc ça, c'est un exemple très tangible. Mais peut-être dans le cadre de la communauté marketing, quelque chose qui va plus leur parler. Par exemple, quand j'ai pitché l'agence créative pour SPA,
oui.
ben, j'ai positivement discriminé les agences locales et indépendantes. Et je ne sais pas qu'il n'y avait pas d'autres agences intéressées. Hein. SPA, c'est une marque qui...
oui, voilà, oui, j'imagine. C'est beaucoup marque... veulent travailler pour...
Voilà, ça intéresse quand même quelques agences. Et j'ai agi de la sorte, pas parce que je pense qu'il n'y a pas de talent hein, dans les autres agences issues des grands groupes, mais plutôt par souci de cohérence et de conviction. Ben, la conviction, un, ben, qu'il y a du talent local, et deux, ben, de la même façon que nous, on est une entreprise familiale et locale, ben, on se doit de montrer l'exemple, en fait, et de redonner et de soutenir nos pairs quand c'est possible. C'est pour ça qu'on a choisi une agence indépendante locale. C'est pour ça aussi, un autre exemple, qu'on reverse 5% des bénéfices de notre société à toutes sortes de partenariats et d'initiatives qui bénéficient aux communautés à la société locale, quoi. Il y a un dernier pilier, c'est agir durablement. Je m'emballe.
C'est très intéressant. Vas-y.
Donc, le dernier pilier, c'est agir durablement. Et je vais donner un exemple très important pour l'industrie dans laquelle nous, on opère, mais qui a un impact énorme sur l'environnement et sur les communautés locales. C'est celle de la gestion de l'eau, en fait. Je ne sais pas si l'été passé dans la presse, ou je ne sais pas si tu as été de retour, je pense que tu es française d'origine, de retour au pays. C'est vraiment un sujet qui est brûlant dans certaines régions. Et c'est important de gérer cette ressource de manière responsable. Alors, heureusement, et c'est le petit fun fact au passage, c'est SPA, c'est l'endroit de Belgique où il pleut le plus.
Si on avait besoin d'en entendre encore plus qu'à Bruxelles.
Mais... plus sérieusement, une source, c'est comme un être vivant, quoi. Il faut le respecter. Et c'est pour ça que nous, ben, on a choisi de développer des marques qui se limitent dans leur expansion et de n'exploiter que la partie de la source qu'elle est capable de régénérer. Donc, pour donner un pourcentage d'indication, c'est à peu près 4% de sa capacité. Et on a d'ailleurs un leitmotiv au sein de l'entreprise, on dit « nous puisons sans épuiser ». Moi, j'aime bien cette phrase, je trouve qu'elle est assez belle et qu'elle traduit bien ce qu'on essaie de faire. Mais du coup, de nouveau, tu vois ce mot auquel je faisais référence de cohérence, pour pouvoir être fidèle à ça, il faut qu'on s'organise autrement. On vend des boissons. Et il n'y a pas de secret, il y a une saisonnalité liée. Oui. Quand il fait chaud, les gens ont soif, ils ont besoin de s'hydrater. Si on commençait à produire au pic de la saison...
Là, on épuise, là.
On aurait un problème, voilà. Et donc, en fait, on se réorganise au sein de l'entreprise. La saison, chez nous, elle commence bien avant, je vais dire même début avril, où on commence à anticiper. Et puis, ben, au cœur de la saison, si on a mal calculé notre coût, ben, l'état d'esprit, c'est, comme on dit en néerlandais, hop is hop. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'encontre de nos principes pour des opportunités court terme. Et ça, je pense que c'est la force d'une entreprise locale, familiale, parce que, voilà, on protège, c'est là où on est, c'est... Voilà, il y a vraiment cette envie de faire les choses correctement pour l'environnement qui nous entoure, quoi.
Tu nous parlais un petit peu plus tôt de l'ancrage local des marques et du fait de ne pas vouloir aller à l'étranger. Hein. Enfin, je simplifie. Mais voilà, elles sont toutes solidement ancrées, toutes les marques, dans leur région d'origine. Mais pourquoi ce choix ?
Oui, et c'est une bonne question. Et effectivement... on commercialise majoritairement de l'eau minérale naturelle. Et c'est une eau qui est soumise vraiment à beaucoup de contraintes et de législations. Et l'une d'elles, c'est que l'eau doit toujours être embouteillée à la source. Donc, ça veut dire que quand tu trouves une eau minérale naturelle bien connue en Europe à Los Angeles, ben, ça veut dire qu'elle a été exportée et acheminée depuis, disons, les Alpes, vers les États-Unis. Et nous, on pense que c'est un non-sens complet, en fait. Et ça va à l'encontre de nos convictions en termes de durabilité. Et c'est pour ça qu'on a vraiment choisi de ne commercialiser nos eaux, et donc nos marques, que dans un rayon maximum de 500 km autour de la source. Et c'est pour ça que nos marques sont uniquement régionales et locales. Mais après, oui, on peut dire, ah, c'est une contrainte, mais en fait, ça nous a permis de développer la force et ce qui fait la différence sur nos marques. Parce qu'en fait, elles opèrent dans des marchés, elles ont une forme de proximité, elles ont... Voilà,
une authenticité peut-être.
Exactement. Et j'ai travaillé dans des multinationales, hein. Il y a des contraintes. Parfois, on passe en communication one size fits all, où on divise le monde en différentes zones culturelles, tu vois, pour essayer de rester plus ou moins en ligne. Mais tu peux jamais obtenir la même démarche que quand tu es ancré dans le marché dans lequel tu opères et quand toi-même tu fais partie de la communauté pour laquelle tu essaies de rendre un service, voilà.
Parlons un peu consommateur. Donc, oui, tu nous as parlé que Spadel est attaché à ses valeurs et à la raison d'être. On a bien compris que c'était très, très ancré dans l'entreprise. Mais finalement, comment est-ce que tu essaies de servir les consommateurs, peut-être d'une manière différente, je ne sais pas, holistique, peut-être plus significative?
Oui, de nouveau, un grand thème. je pense qu'on le fait... Alors, je sais que je fais souvent référence à des jargons un peu... je fais des anglicismes, mais ici, c'est vrai, ce que moi je dis, c'est on construit des love brands. Comment je vois des love brands? Moi, c'est des marques qui remplissent en fait un rôle pertinent dans la vie des gens, auxquelles ils font confiance et qui tentent à les aider au quotidien sur des sujets crédibles. Faut pas, avec une marque comme Spa, avoir pour ambition d'aller... Enfin, je sais pas quel exemple je peux donner, mais il faut qu'on reste quand même crédible par rapport à nos capacités, d'une part, mais aussi des sujets qui sont pertinents pour les gens, quoi. Et je pense que pour servir le consommateur de façon holistique, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on ne vend pas un produit, on essaie de remplir une mission. Et si je prends l'exemple de notre marque la plus emblématique, qui est la marque Spa, on s'est mis comme ambition, comme mission, d'aider le plus de gens possible à mieux boire pour mieux vivre, au sens large du terme. Hein. Et en fait, le fait de se mettre dans cet état d'esprit, ça change tout. Parce que à partir du moment où notre marketing, il n'a pas juste pour ambition de vendre un produit, mais d'aider les gens au quotidien à mieux s'hydrater, à boire plus sainement, à mener une vie plus équilibrée, plus saine, et que du coup, on n'est pas toujours en train de pousser, acheter notre eau, mais on est en train de dire, voilà, on a un programme, par exemple, dédié vers les jeunes mamans. Qu'est-ce qu'il faut boire quand on est enceinte? Quel type d'eau correspond, est idéal pour un nourrisson? Enfin, c'est tout un programme, je simplifie un peu. Mais en gros, on essaie de comprendre ce qui vit comme question autour.
À ce moment-là, pour
voilà. Donc, mais ça peut être les femmes enceintes, comme ça peut être... voilà, on voit bien, on fait du social listening, on a des groupes, on écoute un petit peu ce que les gens nous disent et les questions auxquelles ils voudraient qu'on les aide à répondre autour de l'hydratation. Et je pense que de se mettre en tête qu'effectivement, notre but, c'est aussi de les aider au sens plus large, ça permet de faire un marketing plus pertinent, plus holistique et qui s'inscrit du coup de manière beaucoup plus spontanée dans le quotidien des gens, en fait.
Effectivement. Je voulais terminer cette première partie du podcast en te posant une question sur le produit. Alors, je vais l'appeler produit standardisé, tu ne vas pas être contente. Mais on va dire, pour le commun des mortels ou pour la majorité encore des gens, l'eau en bouteille est encore un produit standardisé. Et le marché est très concurrentiel. Donc, c'est quoi les défis et les opportunités auxquels tu as à faire face régulièrement, tous les jours?
Ben, les défis et les opportunités, ben, déjà, ils sont gigantesques.
Oui.
Déjà, je vais dire dans un premier temps, ben, c'est de continuer justement à nourrir ces love brands en restant pertinent dans la vie des gens, mais toutes générations confondues. Et en fait, c'est pas chose aisée pour une marque aussi généraliste. Hein, de l'eau, c'est un besoin que tout le monde a. parce qu'on voit qu'il y a un grand écart entre la génération, nos parents, nos grands-parents, qui avaient peut-être moins conscience de l'importance de notre façon de consommer par rapport à la nouvelle génération. Ça se traduit aussi dans les différences en termes de consommation de médias, la disparité aussi par rapport à la perception des marques. Donc, c'est vrai qu'il faut continuer à nourrir ces marques, mais en étant pertinent pour tout le monde, quoi. Toutes ces différences, elles font qu'on doit, oui, avoir des approches un peu personnalisées, tout en parlant de la même chose et répondre à leurs attentes. Et c'est crucial de continuer à construire ces love brands parce qu'en fait, notre succès commercial finance nos ambitions aussi de durabilité, ouais, et de sociétal, etc. Donc, c'est un cercle qui doit continuer à être nourri. Et après, ben, évidemment, dans notre industrie, c'est pas une grosse surprise. Hein, le gros défi pour notre marché, ça va vraiment être la capacité de nous réinventer au niveau de notre emballage et de parvenir à fournir la même pureté, la même qualité, mais dans des contenants qui correspondent plus aux attentes, qui répondent à la législation, aux directives européennes en termes de recyclabilité, de circularité et de réduction de l'empreinte. Et ces législations, elles deviennent de plus en plus contraignantes, mais c'est une bonne chose, en fait. C'est une bonne chose parce que c'est aussi une opportunité. Et je vois bien au sein de notre entreprise, voilà, les cartes sont rebattues, quoi. Donc, ça nous oblige à nous réinventer, ça nous oblige à sortir du statu quo et à faire bouger les choses et les faire bouger plus rapidement, quoi.
Ça tombe bien, il y a innovation dans ton titre.
Ça tombe bien.
Comme tu le sais, chez BAM, on a développé notre Meaningful Marketing Framework. Ce sont des principes qui nous guident vers un marketing qui fait plus de sens pour la société et la planète. C'est pourquoi nous continuons chaque épisode de ce podcast par quelques questions stimulantes qui touchent au meaningful marketing. Tu es prête ?
Ready.
Donc, en termes de meaningful marketing, qu'est-ce que tu voudrais faire de différent ou de mieux en 2024 ?
Ce que je veux faire différemment ou mieux en 2024, dans le cas de Spadel, c'est assez simple, j'aimerais qu'on aille plus vite. parce que je pense que dans le cas de nos entreprises, on a déjà fait un long trajet, quoi. Et on part pas de rien. Mm-hmm. On a vraiment intégré depuis plusieurs années cette volonté de tendre vers un marketing plus pertinent, plus durable, plus responsable. On a défini une mission plus claire, des valeurs, une philosophie de collaboration, de transparence. Et on a mis en place déjà des actes concrets en vue de créer un impact positif. Et finalement, le Meaningful Marketing Framework, il est assez similaire finalement avec la philosophie B Corp aussi.
Oui,
hein,
oui, très similitude.
Dont on est certifié. Donc, je pense que voilà, ça prouve bien qu'on s'inscrit vraiment, vraiment là-dedans, mais... On sait où on veut aller, on s'est équipé, on va de l'avant, mais c'est vrai que ça prend du temps. Hein, ça prend du temps. On essaie de bouger un ensemble très large et très diversifié de choses en même temps. Et on est face à des défis immenses en termes de réduction d'impact carbone et environnemental. Mais bon.
Et donc, pour la cadence, alors c'est quoi ta solution? C'est être patiente ou au contraire se dire
non,
on y va, quoi.
Non, justement, ouais. Je vais pas dire faire preuve d'impatience, mais vraiment, moi j'ai vu au sein de l'entreprise, voilà, je suis depuis 5 ans chez Spadel, on a appris à courir et maintenant on est en train de monter en puissance, on a mis des choses concrètes sur le marché. C'est des choses qu'on peut pas vraiment voir de l'extérieur, mais c'est vrai que la façon dont on collabore en interne, ça nous permet d'aller tellement plus vite parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Après, il y a certains sujets sur lesquels on n'a pas les solutions, même techniques, dans l'absolu, pas seulement Spadel. Donc, aller plus vite, c'est faire des choix, rester focus et surtout sortir des choses, quoi. Essayer.
Mode un peu start-up, quoi.
Oui. Et nous, on a la chance d'opérer dans un écosystème plus familial, qui est censé être un petit peu plus agile. Donc, il faut qu'on en tire parti et je pense qu'on est bien parti pour j'espère.
Je vais regarder mon agenda et dans un mois et demi, je te recontacte.
Voilà.
Alors, ensuite, la question que je me pose, c'est de qui ou de quoi les spécialistes du marketing peuvent s'inspirer pour être encore plus meaningful, on va dire.
Oui. Moi, c'est un sentiment personnel, mais j'ai l'impression que au sein de la communauté marketing, la sensibilité au sujet, elle est déjà quand même assez avancée. Que les marketeers savent de quoi on parle, ce vers quoi on veut tendre, qu'on va quelque chose qui ne tend pas seulement à vendre, mais qui doit avoir un objectif un sens, plus large. Par contre, ce que j'entends souvent au sein de cette même communauté, quand j'explique le cas Spadel ou que j'entends des marketeers qui me disent « Oui, mais bon, pour une entreprise comme Spadel, c'est sûrement plus facile, vous êtes plus petit, vous êtes familial. Dans mon entreprise, j'ai pas cet impact ou je ne sais pas par où commencer. » Bah déjà, je leur dirais « Non, ce n'est pas facile, même dans une entreprise comme Spadel. » Parce qu'on est confronté à la même concurrence, au même changement, au même défi. Et au contraire, je vais dire, il y a un nombre plus petit de gens qui prennent une quantité plus grande de risques. Mais par contre, ce que je trouve, et pour répondre du coup à ta question, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait chacun une conviction à notre échelle, quelle que soit la configuration de notre entreprise, qu'on peut faire évoluer les choses, qu'on peut avoir un impact. Et je trouve qu'on a entre les mains quand même un grand pouvoir des marques. C'est un porte-voix incroyable qui peut contribuer à changer les choses, proposant une certaine ligne de communication plus inclusive, plus ouverte, ou en développant des innovations disruptives. Mais je pense qu'en tant que marketeer, là où on devrait plus s'inspirer, pour pouvoir créer ce changement, il faut pouvoir aussi le vendre en interne. Faire évoluer les lignes en interne. Et je pense que pour ce faire, il faut que les marketeers comprennent les tenants et les aboutissants du problème selon la perspective aussi de leur interlocuteur interne. Moi, je ne conçois pas la discipline marketing comme l'image du passé, tu vois, où on était les gentils créatifs un peu allumés de la boîte dans leur petite tour d'ivoire qui s'occupait de la com. Je pense qu'aujourd'hui, un marketeer, il doit avoir une approche beaucoup plus solide et beaucoup plus holistique. Et c'est un défi parce que déjà, dans notre propre discipline, il y a tellement de choses qui changent qu'il faut rester à jour. Mais je pense que ce qui peut nous aider et nous améliorer à tendre vers ce framework, c'est de parler le même langage que l'organe décisionnaire, de comprendre le contexte sociétal, de maîtriser un PNL, de comprendre les défis et les contraintes pour pouvoir revendiquer...
Donc des cours d'empathie, quoi. C'est...
je dirais même plus au-delà de vraiment comprendre les défis sous base de quels critères mon entreprise décide et comment faire arriver ce sujet de meaningful marketing dans la dynamique de ce qui les préoccupe,
interne, ouais.
Oui, pour que ça soit hyper fluide. Et donc, oui, il faut s'armer, s'informer et être plus holistique dans notre appréhension des choses pour pouvoir revendiquer the seat at the table, ouais. Comme on dit en anglais, la chaise autour de la table, et pour pouvoir, du coup, orienter les décisions dans ce sens. Donc, moi, ce serait mon conseil.
Très bien, on va passer le message. Je voulais maintenant savoir ton outil marketing secret. Alors évidemment, il ne le sera plus après ce podcast.
Non, je suis désolée. Alors, l'outil marketing secret, pour moi, the outil, tu vois, qui passe toutes les tendances et tout, il est assez simple, c'est la curiosité. Je dirais, je pense que s'intéresser aux gens, s'intéresser à la société, aux nouvelles technologies, essayer de comprendre et de rester alerte, je vais dire, par rapport à tout ce qui change et qu'est-ce que ça implique pour nourrir sa réflexion. Mais ça peut passer, lire, aller au musée, voir, parler aux gens pour continuer à comprendre ce qui se passe et vraiment comprendre les enjeux auquel on est confronté et qui évolue vraiment à vitesse vive prime. Donc ça, pour moi, c'est déjà le béaba.
Oui. Et donc d'y consacrer le temps.
Du coup, oui. Et j'avoue, si je dois donner plus un outil, ben je ne sais même pas non plus si on peut appeler ça un outil, mais c'est vrai que c'est un type de contenu qui est monté en puissance ces dernières années, ben c'est exactement celui-ci, c'est le podcast. Parce que j'avoue que moi, je suis bien, bien addict. Et en fait, ben, dans nos vies, c'est vrai que le temps, c'est quasi une des denrées les plus rares. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment intégré le podcast et l'apprentissage par l'audio dans mon quotidien. Je monte dans ma voiture, que ça soit pour un petit ou un long trajet en solo. Bouf, il y a un podcast ou un audiolivre marketing ou de développement personnel. Et je trouve ça, enfin, déjà, j'adore. Et puis, et ça permet effectivement de continuer à élargir les horizons.
Voilà, la boucle est bouclée. Alors.
Voilà.
J'avais quand même une autre question pour toi pour presque conclure. Comment est-ce que toi, tu essayes d'être une source d'inspiration pour tes équipes, pour tes collaborateurs, enfin, globalement pour ton entreprise?
Source d'inspiration, oui. Je ne sais pas si j'ai cette prétention.
Avec modestie.
Mais pour mon équipe, j'essaie au quotidien vraiment d'être engagée. Je ne suis pas là à moitié. Quoi. Je joue un espèce de rôle de gardienne de la stratégie. J'essaie de leur témoigner vraiment, d'une part, de la confiance en moi et de l'assertivité pour les guider quand c'est nécessaire, mais en ayant aussi l'humilité de reconnaître que je ne sais pas tout et vraiment leur laisser l'espace de proposer, de se développer et d'essayer à leur manière. Et c'est vraiment ça, j'essaie qu'elles sachent qu'elles peuvent se reposer ou je peux les sortir d'une impasse, que je peux élargir leur champ de réflexion, mais je ne veux pas les oppresser. Quoi. Mmh. Je leur laisse le champ suffisamment large pour proposer des choses. Et justement, il y a des choses super qui en ressortent. Donc voilà, j'ai l'impression quand même que ça marche. Et puis, bah, par rapport au secteur, à mes collaborateurs, bah, je m'investis dans plusieurs associations ou dans des awards pour partager justement un petit peu bah, notre modeste expérience chez Spadel et la mienne en particulier, mais aussi pour aller chercher de l'inspiration.
Dans les deux sens, hein.
Dans les deux sens. Et en gros, bah, ouais, j'essaie toujours d'élargir mes horizons.
Pour conclure ce podcast, et un peu comme une devise qui peut être écrite sur un mug à café qu'on boit le matin ou pour boire son thé, tu as déclaré dans une interview « Servir le consommateur de manière meaningful conduit au succès d'une marque ». Tu nous en dis quelques mots ?
Oui, c'est un peu la phrase, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose derrière. Je pense que la clé du succès pour une marque, c'est vraiment de se poser la question dans le bon sens, quoi. Pas de savoir ce que les gens peuvent apporter à ma marque ou ce qu'ils peuvent m'acheter comme produit ou comme service, mais d'aborder la question dans l'autre sens. C'est quoi le rôle, le service que ma marque peut raisonnablement offrir aux gens qui va les aider à résoudre une friction de leur vie qui les préoccupe vraiment? Et c'est en raisonnant de manière meaningful et responsable que le cercle vertueux peut se créer. Donc finalement, c'est the good old consumer centricity.
Évidemment.
La base de tout.
La base. Alors, nous sommes à la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir été une source d'inspiration et puis d'avoir partagé tes idées, Mélanie. Encore félicitations pour le Golden Award dans la catégorie entreprise de l'année. Alors, en guise de petit cadeau, ce mug BAM. Bon, tu pourras boire de l'eau de spa dedans si tu veux et te souvenir de ce podcast que nous avons partagé ensemble.
Merci beaucoup. C'était un plaisir, Fleur.
Votre entreprise adopte une démarche marketing innovante ? Dans ce cas, n'oubliez pas de vous inscrire à temps pour les Belgium Marketing Awards 2024. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin juin sur belgiummarketingawards.be et rendez-vous à notre prochain Marketing Coffee Talk.